Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal Gisèle Cage.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes nombreux à nous rejoindre sur Radio Kapi ce soir. Merci d'être à l'écoute. Installez-vous. Voici tout de suite les principaux titres de votre journal. Ngandajika, Tchikouï, coup d'accélérateur sur la réhabilitation. Les équipes de l'Office des routes entrent en action pour libérer les opérateurs économiques et les usagers du calvaire avec l'appui du député Bruno Mitéo Nyengue. Boulé sous le choc, des civils touchés en plein centre des négoces, des projectiles visant à un groupe armé atteignent la population, l'armée rejette toute responsabilité. En vite du journal, alerte à Bukavu, 5000 enfants menacés de déscolarisation face à la crise économique aggravée par la guerre. La SBL, initiative éminent Mwanda Plus, lance un cri d'urgence et appelle autorité et humanitaire à agir sans délai. Un changement intervient dans la configuration des forces de maintien de la paix en RDC. La MONUSCO annonce le retrait de derniers contingents sud-africains. Dans un communiqué publié ce 8 février, la MONUSCO indique avoir été informée par le secrétariat de l'ONU que l'Afrique du Sud retirera ses derniers soldats encore engagés au sein de la mission. La mission onusienne exprime sa profonde gratitude au gouvernement et au peuple sud-africain pour leur engagement de longue date en RDC ainsi qu'aux casques bleus qui ont servi parfois au prix de leur vie sous le drapeau des Nations Unies. La MONUSCO souligne vouloir maintenir un dialogue étroit avec Pretoria sur les questions plus larges du maintien de la paix, notamment le partage d'expériences et l'accompagnement des efforts de stabilisation. Elle précise enfin que cette transition sera menée de manière coordonnée, sûre et conforme aux normes onusiennes afin d'assurer une sortie responsable des contingents sud-africains. Coup d'accélérateur sur la route Ngandajika-Tchikouï. L'office de route vient de lancer la réhabilitation de trois points chauds gravement dégradés sur ces tronçons longs d'environ 25 km dans la province de l'Omami. Les travaux ont démarré jeudi dernier, portés par le financement du professeur Bruno Mitéo Nyengue, député national élu de Ngandajika. Une réponse directe aux cris d'alarme des opérateurs économiques souvent bloqués sur cette voie stratégique devenue presque impraticable. Pour en savoir plus, Esther Ndalafina nous donne les détails.
Bourbier, nid de poules et zone impraticable paralysent depuis quelques mois la circulation des véhicules et compliquent à la fois l'approvisionnement en marchandises et l'évacuation des produits agricoles vers Mbujimayi, le centre de consommation. Face à cette situation, les opérateurs économiques de Ngandajika ont sollicité une intervention urgente. Leur appel a été entendu par le député national, le professeur Bruno Mitéo Nyengue, qui finance les travaux à hauteur de 30 000 dollars américains. La première tranche de ce financement a été remise il y a quelques semaines. Sur le terrain, les ingénieurs de l'Office des routes sont à pied d'œuvre. Selon le chef de brigade, les travaux consistent au remblayage des bourbiers et à la réparation des trous les plus critiques. Il signale par ailleurs que les travaux s'effectuent pendant la période pluvieuse et cela risque de prolonger la durée de traitement des points chauds. Cette intervention arrive à un point crucial. De nombreux agriculteurs viennent d'achever leur récolte et se heurtent à d'importantes difficultés pour acheminer leurs produits vers les centres de consommation. La remise en état de ce tronçon doit ainsi faciliter la mobilité des personnes et renforcer la circulation des denrées alimentaires et des produits manufacturés dans la région. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Kapi.
Et pendant que les routes se reconstruisent, un autre chantier avance aussi sur le terrain. Une mission de vérification conjointe et des validations communautaires, Tropebos RDC, Tenure Facility, est à pied d'œuvre dans la province de la Tchopo. Objectif: toucher du doigt les réalités de terrain, confirmer l'existence effective des concessions forestières des communautés locales et s'assurer que les paysans en tirent réellement profit. Ce week-end, la délégation a échangé avec les bénéficiaires avant de parcourir plusieurs activités le long de l'axe Kisangani-Bafoussamé. Le point complet avec Jacques Mukonkole.
de Bakundumu à Bafouazana, en passant par Barumbi Tchopo, se sont entretenus avec les paysans. Ceux-ci ont proclamé leur satisfaction avant d'exprimer certains besoins, comme l'explique l'un d'eux, Jean-Marie Assoumani, président de CFSL Bafouazana.
La scolarisation, même les soins des malades, de faire la production à l'initiative de l'Europe de Bosse, il y a le miel, il y a le cacao également, qu'ils ne cessent pas à nous pouvoir nous accompagner, nous la communauté locale.
L'un des enjeux de cette visite est, selon le professeur Alphonse Maindo, directeur de Tropenbos RDC, est de démontrer la transparence de leur travail et la solidité de leur ancrage dans la Tchopo.
Que nos partenaires financiers et techniques de Tenio Facility puissent arriver ici pour voir que nous avons toujours écrit dans nos rapports en termes de réalisation de ce programme, des sécurisations foncières et des moyens d'existence de communautés locales.
Au terme des entretiens et des visites de quelques réalisations, Julian Chour, chargé des programmes au sein de Tenio Facility, certifie que le projet fournit des efforts concrets sur la vie des paysans.
Ce qui m'a beaucoup touché, c'est que la population donne le témoignage que vraiment aujourd'hui, ils ont des activités qui les apportent des bénéfices.
Tenure Facility assure que cette dynamique d'esprit et de succès mérite d'être soutenue. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Dans un tout autre registre, mais avec la même urgence, une autre colère gronde dans la province du Tanganyika. Les agents de la société Kolingo, sous-traitant de l'entreprise Manono Lithium dans les territoires de Manono, sont descendus dans la rue vendredi dernier. Ils dénoncent le non-respect du SMIG fixé à 21 500 francs par jour par le gouvernement, alors qu'ils ne perçoivent que 13 500 francs. Pour comprendre leur revendication, on écoute les superviseurs des agents de Kolingo dans cet extrait proposé par Paulin Munanga.
Nous nous sommes convenus avec notre chef qu'il allait commencer à nous payer 13 500 francs congolais par jour. Il y a les problèmes des tenues de travail qu'il fallait régler. Donc il fallait acheter des tenues et des jalates à 48 000 francs congolais. C'est ce qui a été fait. Pour mon cas, cela fait 6 mois que je travaille au sein de cette entreprise. Arrivé au mois de janvier, il a fallu payer les agents suivant les SMIG fixés par le gouvernement qui est de 21 500 francs congolais par jour. Le paiement est intervenu le 5 février. Le responsable de l'entreprise a payé quelques personnes suivant les SMIG. Et après les 5, il a encore payé d'autres personnes. Et puis c'est tout. Il a dit qu'il n'y a plus d'argent pour payer suivant les SMIG. Le responsable dit que l'argent qu'il a reçu de sa hiérarchie est insuffisant et c'est là suivant le travail que nous, agents, avons exécuté. Il nous a demandé d'aller continuer de travailler et lundi prochain, il va voir ce qu'il peut faire pour les autres qui sont restés. Mais les agents n'ont voulu rien entendre et ils se sont décidés de manifester.
Et l'actualité nous entraîne maintenant à Ituri avec une information qui secoue la province. 7 personnes ont été blessées vendredi à Boulé, centre des négoces situé à 95 km de Bounia dans les territoires de Djougou. Parmi les victimes, 3 sont grièvement atteintes selon des sources locales qui évoquent des obus tombés dans cette entité. D'après ces mêmes sources, il s'agirait des projectiles tirés par l'armée visant des éléments du groupe armé CRP, Convention pour la Révolution populaire. Mais ces obus auraient malheureusement touché des civils présents sur les lieux. Des allégations fermement rejetées par le porte-parole des FARDC en Ituri. Les détails avec Richard Junior Kamunga.
D'après les sources citerrains, les habitants ont entendu des fracassions peu avant 16 heures. Des sources humanitaires situent plutôt les incidents vers 10 heures de la même journée. Les mêmes sources indiquent que des obus ont été lancés en direction du centre commercial de Boulé, une zone où seraient présents des rebelles de la CRP. Le bilan provisoire fait état de 7 blessés, dont 3 garçons et 4 filles, tous mineurs, ainsi qu'une femme âgée de 65 ans. 3 victimes dans un état critique ont été évacuées par les casques bleus de la MONUSCO vers une structure médicale mieux équipée, rapportent nos sources. Contacté, le porte-parole des opérations militaires des FRDC en Ituri n'a pas confirmé ces informations. Le lieutenant Jules Ngongo parle plutôt d'une manœuvre de diversion de la part des responsables de la rébellion CRP qui chercherait à justifier les crimes commis contre la population civile. Cet incident intervient quelques jours après l'assassinat du coordonnateur local de la société civile par des hommes armés identifiés comme des miliciens de la CRP, selon plusieurs sources concordantes.
Et nous restons justement dans la région avec un autre dossier qui retient l'attention à Djougou. Les autorités territoriales fondent beaucoup d'espoir sur la mise en œuvre membres effectifs du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, les PDDRCS. Dans un entretien exclusif accordé à Radio Okapi, le commissaire principal Rifin Mapela, administrateur du territoire, estime que ces programmes pourraient consolider les efforts déjà consentis par les différents acteurs pour pacifier l'Ituri. Il salue au passage les groupes armés qui appliquent les recommandations issues des rencontres Arou 1 et Arou 2. Rifin Mapela s'exprime au micro de Jean-Claude Lokidile.
C'est déjà un premier pas pour nous, le fait que ces jeunes gens-là portaient des armes et acceptent déjà de se rencontrer et de trouver des solutions pour la paix. Nous savons qu'il y a un programme qui est là, c'est le programme de désarmement, de mobilisation qui est là, qui doivent nécessairement aussi travailler pour que ces jeunes gens-là qui ont déjà bénéficié des rencontres, c'est-à-dire Arou 1, Arou 2, qui puissent mettre ces résolutions de ces dialogues-là de Arou 1 et Arou 2 en application. Et nous le savons que nous avons encore un groupe armé qui est en face de nous, qui dérange. On va voir dans toutes les possibilités comment les associer dans cet accord-là. Comme vous le saviez, il y a toujours des problèmes qu'il faut trouver des solutions. Comme les autres groupes armés ont accepté d'adhérer dans ces programmes et de remettre les armes, nous allons continuer à s'appuyer sur ça pour que vraiment la paix revienne totalement dans l'ensemble du territoire.
Alors que l'Ituri tente de reconstruire un semblant d'épée fragile, une nouvelle ombre s'abat sur le Nord Kivu. La situation demeure d'une inquiétante gravité. Au moins 18 civils ont été tués lors d'une nouvelle attaque attribuée aux rebelles ADF à Mambimbi Isigo, un village du groupement Bapo Kombe dans les secteurs de Bapere, territoire de Lubero, à environ 60 km de Butembo. Jusqu'à ce dimanche, des mouvements massifs des populations sont encore signalés dans la zone. Les détails avec Martial Papi Mukeba.
L'attaque des ADF à Mambimbi et Sigo est survenue dans la nuit de vendredi à samedi. Selon des sources locales et celles de la société civile, les assaillants ont d'abord investi plusieurs champs appartenant aux cultivateurs avant de s'apprendre à la population locale à l'arme blanche. Le bilan provisoire fait état des 18 civils tués, parmi lesquels des femmes ainsi que 7 maisons incendiées. Plusieurs autres civils sont portés disparus, enlevés par les assaillants, précisent nos sources. Ces informations sont confirmées par le colonel Anle Kiwewa, administrateur du territoire de Lubero, qui indique que des dispositions ont été prises pour assurer la protection de la population dans la zone. Jusqu'à ce dimanche, de nombreux habitants des Mambimbi et des villages environnants continuent d'abandonner leurs habitations pour se réfugier dans des zones jugées plus sécurisées. Pour l'heure, nous n'avons obtenu aucune réaction de la part du porte-parole des opérations Sokola Inca Nord et FRDC. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Et toujours dans cette partie du pays, une mise au point importante s'impose. Malgré quelques incidents sécuritaires récemment signalés à l'aéroport international de Kisangani, Bangoka, le trafic aérien tourne à plein régime. La sécurité assurée, solide, efficace selon les FRDC déployés sur place. C'est le commandant de l'aéroport Godard Wamba qui l'a martelé ce vendredi devant la presse locale. Objectif, faire taire les intox, rassurer les voyageurs et rappeler que Bangoka n'est pas fermé contrairement au bruit qui circule sur les réseaux sociaux. Des précisions livrées au micro de Jacques Mukonkole.
Tous les équipements d'aide à la navigation sont en état d'opérationnalité, offrant aux compagnies aériennes les informations nécessaires et suffisantes pour la sécurité des aéronefs et des passagers. Les personnels de la RVA s'engagent formellement et fermement à optimiser les rendements à l'effet de promouvoir et rendre un service public qualitatif et satisfaisant pour vous, nos partenaires et clients de l'aéroport de Kisangani-Bangoka. Ne tombons pas dans ce jeu de nos ennemis qui veulent déstabiliser la RDC. Ne tombons pas dans ce jeu pour commencer à diffuser des fausses informations. La réalité est là. Kisangani, l'aéroport est opérationnel à 100%. Donc, une fois de plus, nos vifs remerciements à son excellence, le président de la République, qui a mis à notre disposition un si bel aéroport. Nous avons aujourd'hui, en RDC, la plus belle piste. Tous les pilotes qui descendent ici acclament et disent que nulle part ailleurs, nous n'avons atterri sur une si belle piste. Nous avons l'aéroport inauguré depuis une année, mis à notre disposition. Donc, nous voulons vous rassurer, vous, nos partenaires économiques, nos partenaires qui utilisaient la plateforme aéroportuaire, et l'aéroport de Kisangani est à votre disposition. À tout moment, vous serez servi dans la sécurité des personnes et de leurs biens.
Autre info qui fait vibrer la région, un vrai souffle d'énergie arrive au Nord Kivu. La société Virunga Énergie fournit désormais jusqu'à 22,5 MW d'électricité à la ville de Goma et ses environs, notamment les territoires de Nyiragongo et Rutshuru. L'annonce a été faite par le gestionnaire du parc national des Virunga lors d'un café de presse organisé à Beni vendredi dernier. Selon la cellule de communication du parc, cette avancée majeure est rendue possible grâce à la mise en service depuis septembre 2025 de la première phase de la centrale hydroélectrique de Rwanguba. Les détails avec Bernard Nyangi.
Le directeur de Virunga Energy, Ephraim Balolé, précise que le premier générateur de Rwanguba d'une capacité d'environ 15 MW a été mis en fonction entre août et septembre 2025, venant ainsi renforcer la centrale de Matebe, dont la capacité maximale est d'environ 13 MW. Les travaux du deuxième générateur de Rwanguba se poursuivent et pourraient s'achever d'ici fin 2026, permettant d'ajouter environ 15 MW supplémentaires. À terme, dit-il, la centrale de Rwanguba pourrait ainsi produire entre 28 et 30 MW. Pour Bienvenue Bouindé, porte-parole du parc national de Virunga, cette production contribue déjà à stabiliser l'approvisionnement en électricité dans la ville de Goma, la plus peuplée du Nord Kivu. Elle garantit également une alimentation régulière des stations de pompage et de la régie des eaux, essentielles pour la distribution d'eau potable. À ce jour, la société Virunga SARL a raccordé environ 40 000 clients, dont 2 000 entreprises. L'Alliance Virunga affirme avoir permis la création de près de 20 000 emplois au cours des 10 dernières années grâce à ses activités énergétiques et de développement local.
Toujours en Nord Kivu, une autre initiative vient renforcer les tissus sociaux locaux. L'organisation Action pour la protection de la femme, de l'enfant et de l'environnement au Congo, APROFEC, a lancé ce vendredi à Beni le projet Amanikwetu dédié à la réinsertion communautaire et à l'autonomisation de la femme pour booster la résilience des communautés. D'une durée d'un an, ce projet ambitionne d'accompagner une cinquantaine de jeunes filles récemment diplômées, mais confrontés au chômage afin de faciliter leur intégration socio-économique et de leur ouvrir de nouvelles perspectives. Les détails avec Marc Marofimo.
Destiné aux femmes désœuvrées, ce projet les regroupera en petites coopératives selon leur secteur d'entrepreneuriat et prévoit du mentorat, du coaching et un accompagnement à stage professionnel. Un projet salutaire selon Pascal Sinamouli, participante au lancement.
C'est une opportunité tellement attendue à la ville de Beni, surtout que c'est un projet communautaire, un projet qui parle de la résilience, qui vise le mentorat, qui vise l'autonomisation, la formation des jeunes filles. C'est vraiment un projet à soutenir.
Pour le chef de projet, l'autonomisation de la femme constitue un levier essentiel de la stabilité communautaire. Croyance Limousse explique.
Ce que nous essayons de résoudre, c'est d'abord autonomiser la femme. Ça veut dire que quand on va autonomiser la femme, on va résoudre non seulement la question du manque d'emploi, mais aussi les questions de chômage, mais aussi des questions qui sont liées, par exemple, que ce soit violence sexuelle, violence conjugale, parce que quand la femme aura aussi des capacités socio-économiques et des capacités financières, elle pourra se prendre en charge elle-même. Et ça va contribuer beaucoup dans le cadre de la paix, non seulement au niveau de la maison, mais au sein de la communauté.
Les projets Amanikwetu visent ainsi à réduire le chômage, à renforcer l'autonomie financière des femmes et à contribuer durablement à la paix et à la cohésion sociale dans la ville de Beni. Marc Marofimbo, Beni, Radio Kapi.
Actualité internationale.
La première ministre japonaise Sanae Takaichi, figure de l'ultra-conservatisme et partisane d'une ligne très dure sur l'immigration, semble réussir son pari, redonner une majorité solide à son parti libéral démocrate PLD lors des législatives anticipées de dimanche. Selon les premières projections publiées après la fermeture des bureaux de vote, la coalition formée par le PLD et le parti de l'innovation Ishin pourrait remporter entre 310 sièges et jusqu'à plus de 300 sièges pour le PLD seul contre 198 précédemment. Ces estimations basées sur des sondages à la sortie des urnes indiquent que la coalition de Takaichi dépasserait largement la majorité absolue et pourrait même retrouver la majorité des deux tiers à la Chambre des représentants. Les résultats officiels sont attendus ce lundi 9 février dans la journée. La campagne lancée sous la neige dans une grande partie du pays a été marquée par la forte popularité de Sanae Takaichi, 64 ans, première femme à diriger le Japon depuis octobre 2025.
L'invité.
Invité du jour, avec un cri d'alarme qui ne peut laisser indifférent, à Bukavu, près de 5000 enfants en âge scolaire risquent de rester en dehors des salles de classe, victimes de la précarité économique qui frappe les ménages aggravés par la guerre. C'est ce que révèle une étude menée par une organisation locale engagée dans la protection des droits des enfants. Éminent Mwanda Sadi, président du conseil d'administration de la SBL Initiative Éminent Mwanda Plus, interpelle le gouvernement et la communauté humanitaire face à cette urgence éducative. Il en parle maintenant au micro de Jean Kassami.
Éminent Mwanda Sani Kangolingoli, bonjour.
Bonjour, monsieur Jean Kassami.
Votre ASBL vient de mener des enquêtes dont les résultats débouchent sur une situation désastreuse de déperdition scolaire dans la ville de Bukavu.
C'est un plaisir pour moi d'étaler la situation des enfants en âge scolaire se trouvant actuellement dans la rue de Bukavu à votre micro. L'initiative Éminent Mwanda a plus une association sans but lucratif a mené une enquête sur les causes de la présence des enfants en âge scolaire se trouvant sur la rue de Bukavu à partir du mois de décembre jusqu'à la fin du mois de février, soit et moi révolu. Les résultats de ces enquêtes donnent un résultat alarmant sur la déperdition scolaire des enfants à Bukavu, relevant plus de 5000 enfants sont au risque d'abandon scolaire sur un effet en urgence.
Quelles sont les causes profondes d'une telle situation qui s'abat sur le secteur de l'éducation?
Comme cause, il y a la pauvreté, le chômage et la situation sécuritaire à l'intérieur de la province qui constitue actuellement un danger. En ce qui concerne la pauvreté, 50% des parents interrogés ont évoqué la pauvreté comme cause majeure d'abandon de leurs enfants. Et à cela s'ajoute le chômage des parents lié à la sécurité dégradante à l'intérieur de la province et la paralysie de certaines activités bancaires qui autrefois constituaient la seule source de revenus de certains parents. Et puis, il y a aussi la déperdition et la perturbation des réseaux Vodacom qui vient amplifier la situation beaucoup plus dans la zone, surtout dans cette période d'évaluation aux élèves de l'école secondaire.
Les conséquences d'abandon scolaire massif sont-elles prévisibles au sein de la société?
Les conséquences des déperditions scolaires sont graves. Notamment, il y a la délinquance et le banditisme. Les enfants qui abandonnent l'école sont plus susceptibles de se tourner vers la délinquance et le banditisme, la prostitution et l'émergence des phénomènes filles et mères. Il y a aussi l'exploitation des enfants à des fins commerciales, car certains parents trouvent bon d'orienter leurs enfants dans des activités commerciales, ce qui expose ces enfants soit aux accidents ou soit à d'autres exploitations sexuelles.
Quelles sont alors vos recommandations?
Nous appelons les autorités compétentes, les organisations non gouvernementales et la communauté internationale à prendre des mesures urgentes pour créer des emplois pour les parents afin de permettre aux parents de subvenir aux besoins scolaires des enfants, rendre momentanément l'éducation gratuite ou appuyer les organisations locales à vocation d'accompagnement des enfants tout en se référant à la Charte africaine des droits de l'enfant qui stipule que les enfants ont droit à l'éducation même en situation d'insécurité. Il y a aussi une autre alternative, monsieur le journaliste, fournir un soutien aux familles démunies afin d'aider les familles à s'y venir aux besoins de leurs enfants. Ensemble, nous pouvons faire une différence pour les enfants de Bukavu et de ses environs en cette période, monsieur le journaliste, je dis.
Emina Mwandasani, nous vous disons merci.
C'était l'invité du jour, Emina Mwanda Sadi, président du conseil d'administration de l'ASBL Initiative Emina Mwanda Plus, venait donc de lancer un véritable cri d'alarme sur la situation de près de 5000 enfants menacés de déscolarisation à Bukavu dans une crise économique aggravée par la guerre. Et voilà, c'est la fin de votre journal sur Radio Okapi. Merci pour votre fidélité toujours aussi nombreuse. Au rendez-vous, on espère que vous avez apprécié l'essentiel de l'actualité de ce jour. Retrouvez ce journal en podcast sur notre site www.radiocapi.net. Restez branchés, votre bulletin d'information arrive dans un instant. À très bientôt sur Radio Okapi.